La première question que je vais vous poser, une question pour contrôler le niveau du son simplement, c'est comment est-ce qu'on fait une omelette chez vous?
En battant des œufs avec une fourchette. Et voilà, et on la fait faire dans une poêle.
Oui. Et ensuite?
Et puis vous la laissez un peu rôtir et voilà, et oui, c'est prêt. C'est pour contrôler ou c'est vraiment les débuts, ça?
Oui, c'est pour contrôler et c'est pour voir si... Oui, ça va.
Ça va comme ça.
Oui, ça va comme ça. Oui, merci. Oui, alors la première question du questionnaire que j'ai à vous poser, c'est depuis combien de temps est-ce que vous habitez à Orléans?
J'habite à Orléans depuis il y a peu près 25 ans.
Ah oui, vous y êtes née?
Non, je ne suis pas née à Orléans, je suis née au Mans.
Ah oui?
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a amené à vivre à Orléans?
Mes parents, mon père est venu ici pour sa situation et depuis nous sommes restés.
Ah oui.
Vous voulez que je continue quand vous posez des questions?
Oui.
Et finalement, j'ai fait mes études ici avec mes frères et sœurs. Et voilà, je suis installée à Orléans depuis et nous n'avons pas encore bougé. Et je ne pense pas qu'on partira tout de suite.
Non. Et Orléans vous plaît comme ville?
Orléans me plaît, oui, beaucoup, parce que c'est une ville qui est assez gaie, qui est très près de Paris, ce qui est très commode. Peut-être assez difficile à connaître pour les gens qui ne sont pas d'Orléans, parce que les Orléanais sont assez difficiles à connaître si on n'est pas présenté. Mais enfin, je crois que quand on les connaît, ils sont très sympathiques.
Ah oui?
Oui.
Ah oui. Vous n'êtes pas tentée d'aller à Paris?
Non, je ne suis pas tellement tentée à Paris parce que j'aime beaucoup la province. Et je trouve que Paris est très intéressant pour travailler, se promener, aller au théâtre, étudier. Mais pour y vivre, c'est une vie un peu rapide et bruyante. Et j'aime mieux revenir ici, en province.
Ah oui. Vous montez à Paris peut-être par le train?
Oui, j'y vais. Je pars tous les matins au train de 7h et je reviens le soir au train de 8h. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça finalement. Je croyais être un cas, mais il y a à peu près, je ne sais pas exactement, peut-être une centaine, 150 personnes qui font ça tous les jours. Et c'est assez rapide finalement. C'est beaucoup plus commode que les trains qui vont par exemple en banlieue, où il faut s'arrêter tout le temps, ils sont bondés. Tandis que là... il y a de la place, c'est direct, on met une heure et peut-être plus tard il y aura l'aérotrain, enfin, espérons. Et je crois que ce sera très commode finalement dans plusieurs années. Il y a beaucoup de jeunes ménages même qui commencent à s'installer ici à Orléans parce que les loyers sont beaucoup moins chers. Ils sont mieux installés, et, pour le même prix ils ont un appartement beaucoup mieux. Et je crois que quand même pas mal de personnes vont faire la navette maintenant. Et je trouve que c'est assez commode.
Ah oui, mais cela vous fait une journée assez longue quand même.
Oui, mais vous savez, finalement, je travaillais à Orléans. Et je me levais à 6h et pour être à 8h aux environs d'Orléans, dans un hôpital. Et maintenant, je prends le train à 7h. Donc l'heure du matin ne change pas. C'est le soir, je rentrais avant vers 5h30 chez moi, donc maintenant je rentre vers 8h30. C'est ça qui est le plus ennuyeux.
Oui, effectivement, oui.
Je travaille à l'ambassade américaine à Paris.
Ah oui.
Oui. Alors je reste en contact un petit peu avec les Américains que j'avais connus ici. Et je ne sais pas.
Qu'est-ce que vous faites comme travail alors à l'ambassade?
Je travaille dans les finances, le budget.
Ah oui.
Oui. C'est assez intéressant. C'est une ambiance très sympathique. Et puis l'ambassade est à la place de la Concorde. Et c'est très agréable parce que c'est en plein cœur de Paris. C'est très gai. J'aime beaucoup.
Oui. Et là, je ne comprends pas exactement en quoi consiste un travail de budget dans une ambassade.
C'est-à-dire que on fait le planning, si on peut dire, du budget pour les... Enfin, c'est assez compliqué. Nous terminons les affaires militaires américaines en France. Vous savez, il y a eu tous les Américains qui étaient en France et qui sont partis. Et il est resté une petite branche à Paris qui s'appelle la Liquidation Section. Et nous liquidons tout ce qui reste. Et je m'occupe de faire les budgets pour toutes les dépenses qui nous restent à faire d'ici leur départ. Ils pensent partir vers la fin juin, peut-être, de cette année. Alors après ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si je vais m'installer à Paris ou... Je ne pense pas. Je pense que je continuerai encore à faire la navette pendant un certain temps.
Ah oui.
Parce que je vis avec ma famille ici et c'est assez commode finalement de rentrer chez soi le soir. C'est calme. On est un petit peu à la campagne malgré tout, tout en étant au centre d'Orléans.
Oui.
C'est tranquille. Oui.
Mais vous resterez surtout, vous resterez toujours à l'ambassade après.
Je pense que oui, oui. J'espère. Oui. J'espère que ça, c'est commode.
Est-ce que vous voudriez me décrire une journée de travail?
Oui, bien sûr. La mienne, par exemple.
Oui. Oui, votre travail.
De travail. Depuis le matin, depuis le lever.
Oui.
Non, si vous voulez. Je me lève à 6h, 6h15 tous les matins. Je prends tranquillement un petit déjeuner, je joue avec le chien. C'est toujours l'occupation du matin. Et après ça, je prends mon bain. Enfin, je m'habille et je pars de la maison vers 7h, 7h10. Et je suis à peu près 10 km, 10 minutes de la gare. Et je prends le train à 7h26. J'arrive à Austerlitz, à la gare d'Austerlitz, vers 9h10. Et je prends le train d'Orsay, qui m'emmène à la gare d'Orsay, qui est tout près de la place de la Concorde, de l'autre côté des Tuileries, si vous connaissez un petit peu Paris. Et là, j'ai pour à peu près 10 minutes, un quart d'heure à pied, traversant les Tuileries. C'est assez joli le matin. Et on voit Paris, on traverse la Seine, c'est assez romantique. Et je travaille, j'arrive un petit peu en retard au bureau, vers 9h15. Je travaille au bureau jusqu'à midi. Et nous avons une heure pour déjeuner. Et nous reprenons à 1h jusqu'à 6h du soir. À 6h, je repars tranquillement en traversant les jardins des Tuileries. Et parce que de prendre le métro, par exemple, à la Concorde à 6h du soir, c'est une chose impossible. Il y a énormément de monde, il n'y a absolument aucune place dans le métro, on est serré, c'est pas agréable du tout. Et je repars à pied jusqu'à la gare d'Orsay. Et je reprends le train jusqu'à la gare d'Austerlitz, je rechange de train et j'arrive ici à 8h15. On vient me chercher en voiture et je rentre dîner. Et voilà, et maintenant vous me trouvez. Voilà, c'est à peu près la journée de travail.
Oui. Et vous n'avez pas de soirée, vraiment, alors?
Non, c'est ça, le plus ennuyeux, c'est... finalement, à Paris, je n'ai pas beaucoup de temps de sortir parce que je dois prendre mon train. Donc, je n'ai pas le temps de voir beaucoup d'amis. Ou alors, il faut que je reste à Paris couchée chez une de mes sœurs qui habite là-bas. Et le soir, si je vais sortir ici à Orléans, c'est un peu tard parce qu'on n'est jamais libre avant 9h. Et se coucher à minuit pour se lever à 6h, on peut le faire de temps en temps, mais pas tous les jours.
Non,
parce que c'est assez fatigant.
Oui. Oui. Et si vous ne faisiez pas ce métier-là, qu'est-ce que vous aimeriez faire?
J'aimerais beaucoup voyager.
Oui.
J'aime énormément les voyages. J'ai fait à peu près, si je peux parler de moi, tout le tour de l'Europe.
Ah oui?
Oui. Je suis allée, j'ai d'abord commencé par l'Angleterre. Je suis allée à Liverpool, je vous avais dit. Et puis, c'est une ville qui m'avait plu, mais qui était un peu triste. Et le climat était assez difficile, était assez difficile pour moi parce que je n'étais pas habituée à ce climat humide. Et puis après ça, je suis allée à Oxford. Ça m'avait beaucoup plu. C'est une ambiance très jeune, très sympathique. Il y avait des... Est-ce qu'on disait du boating, c'est ça?
Oui, 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 c'est ça,
boating.
Punting.
Punting.
Oui, c'est ça, oui.
Et il y avait énormément... Malheureusement, je crois que c'était un petit peu la même chose pour tous les étrangers. J'ai connu beaucoup d'étrangers, des Italiens, des Allemands, des Espagnols, mais pas énormément d'Anglais. Et je crois que c'est la même chose qui se passe en France, c'est qu'on connaît beaucoup mieux les autres étrangers, mais on connaît difficilement les gens du pays parce qu'il faut être présenté ou connaître quelqu'un ou une famille qui vous sorte. Et en plus, il faut connaître la langue. Et si vous ne parlez pas, je ne parlais pas du tout anglais, très très mal. Et je crois que c'est assez difficile finalement. Les personnes chez qui j'étais à Oxford étaient très, très gentilles, ils m'ont présenté à quelques étudiants. Mais je ne parlais pas, je ne comprenais absolument rien. How long have you been in England? Je ne comprenais absolument. C'était la première question qu'on me demandait, je ne comprenais jamais. Et finalement, je suis sortie beaucoup plus, j'ai connu beaucoup plus d'Italien, d'Espagnol, parce qu'on parlait un mélange de, un peu de toutes les langues. Et, mais enfin, c'était une expérience qui m'avait beaucoup plu. Et après ça, je suis allée passer un an en Italie, à Padoue, Venise, et j'ai fait toute l'Italie après ça. Et j'ai appris l'italien. Et après ça, j'ai fait les pays nordiques, la Suède, le Danemark. C'était aussi assez joli. Et je suis allée une autre année en vacances. Je suis allée travailler en Israël dans un kibbutz.
Ah oui?
Oui. C'était une expérience assez très amusante. Je voulais faire cette expérience parce que je ne connaissais pas du tout la vie en Israël, ni le kibbutz. Et, je suis allée dans le Negev avec des pionniers pendant un mois. Pendant le mois d'août, c'était un mois très chaud. Mais on a rencontré des gens extraordinaires, très travailleurs. J'ai travaillé à la terre, moi qui n'avais jamais fait ça dans ma vie. J'ai planté des arbres, des pommes de terre. Et c'était, je crois, une expérience extraordinaire à faire, spécialement dans les kibbutz de pionniers, c'est les petits, parce que les gens sont jeunes et ont... Et comme on dit en français, ils en veulent beaucoup, vous voyez ce que je veux dire? Ils sont assez acharnés pour oui. travailler, pour vivre pour les enfants, sans être très préoccupés par l'argent. Et puis, l'année d'après, je suis allée, pendant les vacances aussi, en Russie.
Ah, oui.
Faire les pays, toute la mer Noire, la Roumanie... la Roumanie, la Bulgarie, la Russie, la Turquie, l'Albanie et retour par l'Italie. Et là aussi, on a rencontré des gens assez extraordinaires. Et vous voyez, là, j'ai fait un voyage avec des Français et c'était assez intéressant parce que, je ne sais pas si vous avez la même chose en Angleterre, mais quand je suis partie, j'étais avec un groupe de Français et ils étaient convaincus en partant que les Russes étaient très très malheureux chez eux. Bon, je sais vrai, je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Mais malgré tout, je pense qu'il y a une certaine catégorie de Russes qui sont ceux qui travaillaient vraiment dans les terres, vous voyez, les plus pauvres de tout. Je crois qu'eux ont plutôt un petit peu évolué par rapport à ce... Ils étaient vraiment très malheureux dans le temps, donc ce n'était pas une évolution énorme, mais par rapport à leur vie... D'autrefois, ils ont un petit peu évolué sous le régime actuel. Les autres, certainement, tous les gens qui sont, par exemple, les intellectuels, les docteurs, les personnes qui ont une culture déjà assez élevée, en souffrent beaucoup de ce régime. Mais je pense que la classe très très basse a, elle, un petit peu évolué. Et les Français qui étaient là, je crois, sont arrivés avec l'idée que les Russes sont tous très très malheureux et... Ils ont eu beaucoup de, enfin, je crois qu'ils ont eu beaucoup de mal à sortir, même si on leur expliquait. Ils n'ont pas voulu changer d'idée tellement, je pense.
Ah oui.
Mais on a vu des choses extraordinaires. En Roumanie, des avenues magnifiques, des appartements modernes, très bien arrangés. Mais aux fenêtres, je ne sais pas, il y avait des papiers journaux comme rideaux. Il y avait des tas de choses qui étaient assez amusantes. Enfin, Mais là, j'aurais aimé voir un petit peu... J'avais fait ce voyage pour faire une comparaison entre l'Israël et la Russie. Mais on n'a pas du tout eu la chance de voir justement les fermes et choses comme ça parce qu'on nous a limité beaucoup le voyage en nous montrant beaucoup de stades, de rues. On n'a pas le droit de prendre des photos. Alors, on n'a pas pu rendre les photos du voyage...
Pourquoi est-ce que je vois que cela vous intéresse beaucoup de voyager, oui. Que vous aimeriez voyager encore, mais oui, dans quel but réellement?
Pour connaître la mentalité des personnes qui habitent dans d'autres pays, leur manière de voir, de les comprendre, d'essayer d'apprendre d'autres langues, de vivre leur vie à eux et d'essayer de s'enrichir tout en apportant peut-être quelque chose personnellement. Mais je n'aimerais pas du tout voyager. Vous voyez, par exemple, quand j'étais à Istanbul, je suis allée à l'hôtel Hilton parce que j'avais des amis. Et j'ai trouvé ça dommage que beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent voyagent dans des hôtels comme ça parce qu'ils ne voient rien finalement du pays. C'est tellement plus sympathique que, naturellement, on a moins de confort, mais d'essayer de vivre beaucoup plus bas, enfin de trouver des petits hôtels plus typiques. Je me souviens, une année, je suis allée en Sicile et dans le train, il y avait un vieux Sicilien qui me disait « Oh, vous êtes française, je vais vous donner un petit bout de pain. » Alors, il a pris son couteau, il nous a coupé un peu de sa boyoche et avec un petit peu de vieux saucisson. Mais c'était gentil. C'était une fois aussi en Corse, on a rencontré un vieux berger qui nous a dit « Venez chez moi, j'ai qu'un petit peu de café, un gâteau, mais je vais vous l'offrir. » Et ça, ce sont des choses qui font plaisir et ils nous expliquent sa vie. Ils ont une philosophie en général qui est très riche, si je peux dire. Et ils ont une manière de voir les choses qui est très logique. Et il y a tout un ensemble. Et je crois que c'est dommage, justement, les personnes qui voyagent dans un certain standing, ils n'ont pas toutes ces joies, si je peux dire, de connaître des gens de
ça. Et si vous étiez mariée, est-ce que vous continueriez à votre métier ou continuerez de travailler?
Je ne sais pas. Si j'étais mariée, je crois que j'aurais, peut-être pas les premières années, peut-être, mais j'aurais beaucoup de mal à rester, maintenant que je suis habituée à travailler, à rester chez moi. Parce que quand on a commencé à travailler, on a l'impression de vivre un peu une autre vie, de vivre deux vies finalement. La sienne, chez soi, dans sa famille, et au bureau, c'est autre chose. Il y a l'ambiance du bureau, les personnes qui passent, le travail. Et on a l'impression de faire autre chose que d'être chez soi, derrière les casseroles. Non, je ne pense pas. Je pense que si j'avais des enfants petits, je le ferais peut-être pour les enfants parce qu'ils ont besoin de leur mère, certainement. J'ai entendu beaucoup d'amis qui m'ont dit, ou même dans la télévision, je voyais ça l'autre jour encore, des enfants qui ont beaucoup regretté de vivre sans leur mère le soir, de rentrer chez eux dans une maison vide. Je crois que c'est très triste pour les enfants. Et ça, je crois que je ne le ferais pas à cause de ça. Mais personnellement, j'aurais certainement envie de travailler encore. Parce que je trouve ça dommage, finalement. Une maison, c'est très bien de l'entretenir, de la garder propre, de s'occuper des affaires de son mari. C'est très bien, mais c'est dommage qu'une vie se termine là-dessus, finalement. Oui. Parce que peut-être de travailler à mi-temps, c'est ce qui est le plus agréable quand on est marié. Parce qu'on peut un peu s'occuper de sa famille tout en étant... tout en ayant l'impression d'être un petit peu, comment dirais-je, enfin, utile à quelque chose d'autre que chez soi.
Ah oui.
Je trouve.
Vous avez néanmoins quelques fois du temps libre.
Oui.
Qu'est-ce que vous en faites?
Qu'est-ce que je fais? En ce moment, j'ai mon temps libre le samedi. Je vais me promener quelquefois à la campagne. Je regarde la nature, les oiseaux. Je crois que c'est un avantage d'être à Orléans parce qu'on est tout de suite dehors et on peut admirer un peu. J'aime beaucoup la nature, les jolis paysages, la mer,
aussi,
les fleurs.
Oui.
Enfin, la mer, le port, on la voit pas ici, mais enfin, l'eau.
Il y a la Loire.
Voilà, la Loire, qui est très jolie. Et je vais, je sors des cocktails, des dîners. Je vais quelquefois au théâtre, au concert, ou je pars en week-end peut-être chez des amis. Je lis, j'aime beaucoup lire. Je regarde quelquefois la télévision. Qu'est-ce que je peux faire d'autre à peu près? Je fais toujours des plans pour essayer d'étudier, je ne sais pas, des choses qui m'intéresseraient pour plus tard. Je fais toujours beaucoup de plans, mais je finis jamais.
Ah oui.
Enfin, j'espère arriver jusque-là. Et je dors aussi quelquefois, parce que de se lever à 6h le matin, le dimanche, je dors très souvent, moi, jusqu'à midi. Et puis, nous allons souvent avec ma famille des mariages. On a beaucoup d'amis qui se marient. Il y a des réunions un petit peu de famille. Mes frères et sœurs reviennent en général le week-end parce qu'on est très unis dans la famille et on se retrouve très souvent tous le dimanche. Alors, c'est un peu une fête familiale.
Ah oui. Est-ce que vous pourriez me dire, à titre d'exemple, comment vous avez passé dimanche dernier ?
Dimanche dernier ?
Il y a 2 jours, c'est-à-dire.
Oui, il y a 2 jours. Ah oui, je suis allée le matin, j'ai dormi jusqu'à midi. Je suis allée à la messe. Et après ça, nous sommes partis avec mes parents et mes frères se promener dans la forêt d'Orléans. Nous avons été prendre le thé chez des amis. Et le soir, nous avons été faire une visite à l'hôpital chez une personne qui est malade. Et nous avons dîné ici. Après ça, je suis allée au cinéma. Voilà.
Ah bon, oui. Très bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire pendant les vacances d'été ?
Pendant les vacances d'été, j'aurai très peu de vacances parce que j'ai l'ambassade, nous n'avons que 14 jours. Et j'aimerais aller chez les Esquimaux, voir les Esquimaux.
Ah oui.
Parce que j'aime bien faire des voyages, mais je trouve que, par exemple, l'Espagne, l'Italie, j'aime beaucoup l'Italie. Mais c'est un peu toujours touristique, un peu trop connu. Ça manque un peu de piment. Et j'aimerais faire un voyage qui sorte un petit peu de l'ordinaire ou que, si vous voulez, un endroit qui n'est pas encore très connu, où je peux encore découvrir quelque chose sans en avoir trop entendu parler déjà. Par exemple, je ne suis jamais allée à New York, mais j'en ai tellement entendu parler que ce n'est pas vraiment une découverte, si vous voulez.
Ah oui.
Oui. Et j'ai par exemple un de mes frères qui a fait son service militaire à Tahiti. Et nous avons vu tellement de photos, entendu tellement de musique, nous avons vu beaucoup de conférences. Il nous en a beaucoup parlé, des amis qui sont allés là-bas nous ont aussi parlé. Que Tahiti, je n'ai plus envie d'y aller parce que je le connais trop, vous voyez ce que je veux dire. J'ai trouvé un coin, je ne sais pas, les Esquimaux, ça me tenterait d'aller dans le Grand Nord.
Et vous irez toute seule?
Oui. Ou je prendrai peut-être un groupe, vous savez, un voyage organisé. Mais les voyages organisés, comme toujours, on a les inconvénients d'être trop organisé pour... peut-être si je trouve une ou deux amis, ou si je ne fais pas ça, je suis invitée en Amérique par des Américains que je connaissais. Alors peut-être j'irai. Mais 15 jours, c'est pas très long pour aller là-bas.
Non, vraiment. Ouais. Pour voir les Esquimaux,
oui.
Ouais.
Surtout. Oui, si, c'est assez. Alors, je ne sais pas, peut-être je retournerai. Enfin, j'essaierai de faire un voyage intéressant ou alors. Vous avez entendu parler des fouilles. Vous savez, des jeunes qui remettent en état des vieux châteaux.
Oui.
Quelque chose comme ça, j'aimerais faire. Oui. Ou alors des chantiers de jeunesse. Parce que j'aime bien avoir des contacts avec d'autres personnes et. Oui. C'est plus amusant finalement que de passer des vacances tranquillement sur une plage. Mmh. Donc c'est seul le moment de l'année où on peut connaître un peu d'autres mentalités, d'autres personnes.
Oui, moi aussi je trouve.
Oui, c'est ça. Oui. Moi j'aime beaucoup ça.
Si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, qu'est-ce que vous en feriez?
Qu'est-ce que je ferais? 2 heures de libre par jour. Je lirais plus certainement. Je lirais et je ferais de la danse. Parce que je fais beaucoup de danse comme ça pour m'amuser. J'ai toujours aimé faire pas mal de choses en dehors de l'école, de classe, quand j'étais en classe. Et j'étais par exemple plusieurs années aux Beaux-Arts, mais en amateur toujours. J'ai fait de la musique, du piano, etc. Et j'ai fait beaucoup de danse, du yoga. Et ça me manque beaucoup de ne plus en faire. Alors je ferai certainement je prendrai des cours de langue, de français même, parce que j'ai un français qui maintenant est très mauvais, parce que toute la journée je parle américain. Et en plus de ça, quand je parle avec une étrangère, je ne parle jamais comme je parlais avec un français. C'est pas possible. Parce que je suis habituée à parler toujours avec des étrangers en français. Et je fais attention de... C'est idiot, mais de... de parler simplement et résulter en un français qui est un vrai chinois. Enfin, je prendrai des cours de langue étrangère et de danse ou de gymnastique, de sport, certainement.
Ah oui, oui. Tiens, une petite pause pour laisser la pendule terminer. On appelle ça une pendule ou une horloge?
Un cartel.
Un cartel. Ah oui? J'ai pas entendu le mot. Non,
cette forme de pendule qui est. Vous voyez?
Ah oui.
C'est comme ça.
Ah oui. Oui, très très joli. Eh bien, est-ce que. Enfin, où est-ce que vous avez fait vos études? Vous avez été à Orléans même.
Orléans, oui. Je suis restée à Orléans. Je suis allée dans une pension religieuse.
Oui.
Chez les Sœurs de la Sagesse à Orléans. Après ça, je suis allée au lycée. Et j'ai terminé, après ça, en Italie et en Angleterre, j'ai suivi des cours. Enfin, j'ai fait des cours d'interprète à Paris. Et je suis allée en Angleterre, après ça, dans les collèges anglais.
Oui.
Et en Italie aussi, la même chose, pour apprendre plusieurs langues. Et après ça, j'ai suivi des cours de commerciaux. Et voilà. Et après ça, des cours...
très variés.
Oui, américains.
L'éducation, voilà. Quoi, oui. Est-ce que l'enseignement a beaucoup changé depuis que vous avez fait vos études?
Oui, énormément.
En quoi surtout?
Je pense qu'il y a d'abord beaucoup plus de spécialisation, si vous voulez, les cours. Enfin, je ne suis pas très au courant parce que j'ai plus de frères et sœurs qui sont maintenant à l'école, en classe. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de programmes variés. On commence à suivre un petit peu, j'ai l'impression, le système américain de spécialiser très rapidement, d'orienter les jeunes presque trop tôt, peut-être, à mon avis. Enfin, je suis assez mal placée pour le savoir, pour le dire, parce que je n'ai pas assez d'expérience. Hein. Mais je crois que très tôt, maintenant, on les oriente dans une certaine branche et il y a beaucoup plus d'élèves que dans le temps. Il y a beaucoup plus de programmes. Les examens sont différents, puis en ce moment il y a tellement de réformes que je crois que même les étudiants ils comprennent plus grand chose à l'heure actuelle.
Non. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait surtout apprendre aux enfants à l'école?
Je crois, j'avais pensé à ça une fois. Je pense que il y a d'abord quelque chose qui, si c'était possible, devrait être réformé un petit peu, c'est la manière d'enseigner. C'est peut-être vrai ou faux, je me trompe peut-être, mais je trouve que la manière d'apprendre aux élèves, apprends ou tu seras puni, c'est valable certainement pour plusieurs élèves, mais il y en a d'autres qui seraient très intéressés peut-être à apprendre d'autres branches, d'autres matières que tout, comme enfin, sous ce régime-là. Et je me souviens très bien que quand j'étais au lycée, nous avions un professeur qui était passionnant. Et c'était le professeur d'histoire et de géographie. Et j'aimais pas du tout la géographie ni l'histoire. Mais le jour où elle est arrivée, elle ne nous a pas forcé, si vous voulez, en disant « si vous n'apprenez pas, vous serez puni ». Elle nous a expliqué d'une manière très prenante, très vivante. Et tout le monde suivait ça avec beaucoup d'intérêt. Et par contre, je détestais les langues parce que les professeurs, je n'y comprenais rien du tout. Ils disaient, si vous ne faites pas ça, vous serez punis. Et je vois que la méthode d'apprendre aux enfants, on devrait les laisser un peu plus libres peut-être. Mais alors on m'a répondu qu'ils ne comprennent pas, ils sont trop jeunes pour comprendre la nécessité, peut-être. Mais... vous voyez ce que je veux dire, je trouve que la méthode d'enseigner devrait peut-être un peu maintenant réformer aussi.
Oui.
Alors, je ne sais pas si c'est de mon avis. Mais...
et les matières, quelles matières est-ce que vous estimez les plus importantes?
D'abord, une très bonne culture générale.
Oui.
Certainement. Parce que, toujours en comparant avec les Américains, parce que j'ai pu voir ça avec eux, je crois que c'est dommage de voir des personnes qui arrivent à un stade assez élevé, qui sont qui n'ont aucun sujet de conversation finalement. À part les autres, à part quelques personnes qui veulent apprendre pour leur, enfin pour elles-mêmes, on arrive tellement à spécialiser les gens qui sont très forts dans une matière, mais ils manquent de culture générale, ils manquent, on ne peut pas leur parler d'autre chose parce qu'ils sont un petit peu perdus. Je trouve qu'on devrait apprendre aux enfants une, leur donner d'abord une très bonne base, et la spécialisation c'est très bien, mais on prend une certaine catégorie de personnes qui sont certaines d'arriver dans cette branche-là. Mais les autres, on devrait leur donner plus peut-être de culture générale. Je ne suis pas encore tout à fait... enfin, je n'admets pas encore tout à fait la spécialisation trop jeune, parce que c'est dommage finalement.
Et le latin, qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école?
Moi, je trouve que c'est une très bonne chose de l'apprendre.
Ah oui.
Ça a l'air un peu ridicule peut-être à l'heure actuelle, parce que, avec les sciences, mais... vous voyez, je trouve que pour parler très bien le français, je peux le dire parce que je trouve que je parle très mal, mais c'est très bon d'apprendre le latin. C'est peut-être du temps perdu pour plusieurs personnes parce qu'ils trouvent que c'est une langue morte, mais si on veut garder une langue française pure, et je crois qu'il est grand temps de pouvoir reprendre un petit peu les... Mais c'est toujours la même chose, on ne peut pas évoluer. Faut choisir, faut dire si on veut rester vraiment dans une langue française. Pour les étudiants en lettres, certainement, je trouve que c'est indispensable.
Alors, vous n'approuvez pas spécialement la réforme actuelle? Je crois qu'on a supprimé le latin en 6e et en 5e. Oui.
Non, je n'approuve pas, mais c'est très difficile à juger finalement parce que je ne suis pas assez dans le bain pour. Oui. Moi, personnellement, je trouve dommage qu'on supprime vraiment le latin parce que c'est un petit peu la base de la langue française. Et ça aide finalement beaucoup plus tard. Maintenant, si on veut se lancer dans les mathématiques, les sciences, on ne peut pas tout faire, c'est pas possible.
Oui. Jusqu'à quel âge est-ce que vous croyez qu'on devrait poursuivre ces études?
Ah, c'est encore un sujet. Oui. Naturellement, le plus tard possible. Mais à une condition, c'est d'abord de pouvoir les poursuivre financièrement, d'avoir des parents qui puissent vous aider et être sûr de trouver en sortant une situation valable sans rester plusieurs années en cherchant un travail. J'ai plusieurs amis qui ont passé des examens et qui n'ont pas été capables de trouver une situation rapidement parce qu'elles ne faisaient pas, par exemple, de sténodactylo. C'est un peu ridicule, mais c'est un petit peu l'ennui à l'heure actuelle. C'est les études très poussées n'ouvrent pas automatiquement des portes à des jobs intéressants. Certainement pour plusieurs personnes, mais pas pour tout le monde. Et ça, justement, la réforme, c'est certainement une des raisons de... Mais un minimum de... 15 ans, je pense, jusqu'à 15 ans.
Mm-hmm. Alors, 16 ans, qui est l'âge de la scolarité obligatoire actuellement, c'est un peu trop, selon vous?
Non, c'est bien. Je trouve 16 ans, c'est bien à l'heure actuelle.
Oui, oui.
Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus l'autre jour, parce que les uns étaient pour, les autres étaient contre.
Oui.
Mais non, parce que finalement, dans la vie, vous avez besoin de ça.
Mm-hmm.
Et j'ai vu quelque chose qui m'avait frappé l'autre jour à la télévision, je ne sais pas si vous avez remarqué, une émission sur les étudiants, et on demandait aux élèves ce qu'ils pensaient de leur père.
Vous avez pas vu ça? Je n'ai pas vu, non.
Et il y en avait un, justement, un jeune qui disait « Mon père est un ouvrier et il ne m'apprend pas assez, enfin, ce n'est qu'un ouvrier. » Et le père entendait, on voyait qu'il était très touché, parce que... Et je crois que finalement, les jeunes... Arriver à un site où on se sent intelligent, regretteront toujours finalement à un moment de leur vie de ne pas avoir assez étudié pour évoluer. Et c'est pour ça que c'est dommage d'arrêter trop tôt.
Oui. Oui. C'est la même chose pour les garçons et les filles, pensez-vous?
C'est... Non, attendez. Les garçons certainement en premier. Mais maintenant, à l'heure actuelle, les femmes arrivent de plus en plus à des situations assez importantes et... Ça deviendra presque aussi utile pour une femme bientôt d'apprendre. Un petit peu moins encore, mais enfin, pas beaucoup.
Ah oui, je vois. Oui. Alors, pour revenir à la ville d'Orléans, Est-ce que vous pensez qu'on fait assez pour les habitants?
Est-ce qu'on fait assez pour les habitants?
Oui.
Non. On a fait beaucoup de progrès. C'est pour ça que c'est assez mal venu de critiquer à l'heure actuelle, parce que depuis quelques 5 ou 6 ans maintenant, la ville s'est énormément développée. Il y a eu beaucoup de changements, de transformations, la ville s'est modernisée. Mais il n'y a pas assez de loisirs pour les jeunes, je pense. Il n'y a pas, le théâtre est infect, ça, c'est, tout le monde a dû vous dire cette chose-là. Le théâtre, peut-être, il va y avoir un nouveau. La piscine, par exemple, est trop petite. Et, il n'y a pas assez de vie le soir. Enfin, ça ne vient pas uniquement d'Orléans, ça vient un peu des habitants. Mais je crois qu'il y aurait plus de vie. Il y a pas mal de conférences, certainement, de quelques concerts, de théâtre, mais ça manque d'ambiance, ça manque d'organisation, peut-être. Et puis, c'est un peu toujours la même chose, comme c'est très près de Paris, les gens, finalement, ne veulent pas faire l'effort de sortir à Orléans, parce qu'ils savent très bien qu'ils trouveront toujours un peu mieux à Paris. Mais ils pourraient certainement développer... oui, beaucoup de... Surtout au point de vue loisir, je pense.
Ah oui. Est-ce qu'au moment des événements...
Les restaurants, parce qu'ils ne sont pas tous
un restaurant
bons.
Oui. Ah oui. Oui, on en a essayé plusieurs, oui, c'est vrai.
Non, mais je trouve que... Enfin, moi, je vais assez souvent au restaurant avec des amis. Et... Enfin, je ne dirais pas ça dans les hôteliers, mais je ne trouve pas qu'il y ait de très bons restaurants à Orléans. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et c'est dommage, parce que c'est une ville qui devient... assez touristique maintenant, tout le monde, beaucoup de personnes passent en venant voir les châteaux de la Loire, mais il n'y a pas de très bons restaurants, il n'y a pas de très bonnes tables.
Ah non?
Non. Il y a les hôtels, ne sont pas extraordinaires, enfin je ne suis jamais allée, mais enfin à voir comme ça, je ne pense pas qu'il y a...
On m'a parlé d'un restaurant qui s'appelle, je crois, la Crémaillère.
La Crémaillère, oui, attendez que je vois aussi.
Notre-Dame de Recouvrance, j'ai vu le nom dans la rue. Oui. Je ne suis jamais allée parce que ça paraît très très cher.
Mais oui, c'est un petit peu. Oui, je pense. Je ne suis jamais allée là, celui-là non plus, mais je crois que Moïse, c'est assez cher. Mais je ne connais pas. Je pas dit. Je crois que le cadre est assez joli par contre. Mm-hmm. La nourriture, je ne suis jamais allée, je ne peux pas vous dire.
Ah bon?
Non.
Ah bon.
Je ne sais pas.
Non. Est-ce qu'au moment des événements de l'an dernier, Orléans était calme?
Relativement calme, oui. Il y a eu quelques manifestations de jeunes, mais enfin, ce n'était pas énorme.
Est-ce que les événements vous ont affecté vous-même?
Oui, certainement. Tout le monde, tous les Français, en dehors de la question des grèves, parce que tout le monde est toujours touché par les grèves, le seul bon côté peut-être des grèves, c'est qu'il y a une entraide qu'on ne trouve pas pendant les autres jours. Les gens s'aident, s'entraident. Il y a une espèce de lien qui se crée, qui rappelle un petit peu, je crois, les temps de l'après-guerre, où les gens s'étaient beaucoup plus à s'aider les uns les autres. Oui, en dehors de ça, les étudiants, tout le monde a été passionné par la réforme des étudiants. Il y a eu beaucoup de discussions dessus. Je crois que, enfin, si je peux donner mon avis, je ne veux pas trop me lancer parce que je ne suis pas étudiante, alors, mais je pense qu'ils avaient tout à fait raison de faire une réforme, enfin, de remuer au début, parce qu'ils avaient des raisons très valables, très justes. Je crois que ce qui a été le plus dommage, c'est que viennent se mettre une bande plutôt politique dans cette histoire-là et qui ont fait virer un petit peu finalement l'opinion des gens qui étaient assez pour eux, et parce qu'ils ont tourné cette révolution, si on peut appeler ça, plutôt en côté politique finalement. Et les étudiants qui étaient valables au début, je suis sûre, ont fait un peu marche arrière parce qu'ils ont vu que ça venait trop politique finalement, beaucoup moins que...
Ah oui. Et comment est-ce que les étudiants et les ouvriers se sont liés ensemble? Où est-ce qu'ils se sont liés?
Ils se sont liés au début parce qu'ils ont trouvé, il y a eu une très grande solidarité. Mais après ça, spécialement la dernière fois, il y a eu certainement un frottement. Parce que les ouvriers ont moins cru à la réforme étudiante. Ils ont vu que ça tournait trop politique. Mais je crois que c'est une bonne chose malgré tout que les étudiants remuent, parce que sinon, il faut le faire de temps en temps. Et que ce que je reproche finalement aux Français, c'est que beaucoup de ceux qui étaient contre, moi je vous dis, j'étais pour au début, et après ça, il y a eu, je ne suis pas contre eux, certainement pas. Je ne veux pas dire que je suis 100% non plus avec eux, parce qu'il y a eu trop d'histoires politiques dedans qui se sont greffées. Mais beaucoup de Français qui étaient contre étaient pour la plupart des personnes qui avaient peur pour leur bien. Enfin, c'était beaucoup plus une question personnelle. Ils avaient peur de perdre leur argent, si je peux dire. C'est un peu la question qui les a fait... parce qu'ils disaient le désordre, mais... c'est souvent le désordre parce que ça vous touche plus ou moins personnellement. Vous avez peur pour... Enfin, je crois que c'est ce qui donnait l'impression finalement des personnes qui ont été un petit peu pour le gouvernement. C'est pour la plupart des industriels ou des gens qui avaient déjà une certaine fortune et qui avaient un peu peur pour leur bien, je crois.
Ah oui. Ah oui. Est-ce que les ouvriers étaient vraiment pour une révolution? Ou est-ce que c'était simplement les étudiants qui voulaient une révolution? Ou un changement de régime, plutôt?
Les étudiants étaient certainement pour une révolution, pour une réforme complète, ils en avaient assez, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de débouchés, etc. Les ouvriers voulaient certainement aussi, à mon avis, une révolution, c'est peut-être un grand mot, mais enfin une réforme, une augmentation des salaires. Parce que... il faut reconnaître honnêtement qu'il y avait beaucoup d'ouvriers qui ne gagnaient pas beaucoup d'argent. Et je crois qu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas empêcher, quelles que soient vos idées, de trouver désagréable de voir des industriels, enfin des employés, des PDG, qui ont un train de vie, ce qui est normal, je viens croire. Très nettement supérieurs à leurs ouvriers, mais il y a peut-être quelquefois une trop grosse différence pour pouvoir accepter ça sans s'en brancher. Je crois que c'est là justement le point critique. Il y a trop de différence quelquefois dans les salaires entre les cadres et les PDG par rapport à leurs ouvriers. C'est normal qu'un ouvrier gagne beaucoup moins, mais ce n'est pas normal qu'on lui dise de se contenter de peu parce qu'il n'a pas de besoin. Et ça, je crois que j'en ai entendu ça énormément pendant la grève. Je ne trouve pas ça normal, quelles que soient les idées de quelqu'un, de dire les gens n'ont pas de besoin, tout le monde a besoin de vivre, de vouloir arranger son intérieur, de vouloir s'organiser, de vivre un peu mieux.
Oui. Est-ce que... vous avez parlé d'ouvriers, de PDG. Est-ce qu'il y a de grandes différences toujours en France entre les classes sociales?
Moins à l'heure actuelle.
Ah oui.
Moins qu'il y a plusieurs années, certainement. Il y a eu certainement une très grande évolution pour les ouvriers, même les employés de maison. Mais je crois qu'il y a encore trop de différences. Surtout, je trouve à l'heure actuelle, ce qui est très désagréable en France, c'est de voir, enfin je ne sais pas si c'est la même chose en Angleterre ou ailleurs, mais enfin, de voir que des personnes qui ont plus de 40 ans, si vous cherchez du travail, il y a beaucoup de jeunes qui sont en chômage. Vous me direz, il y en a beaucoup qui ne veulent pas trop chercher. Mais même les uns qui voudraient faire quelque chose ne trouvent pas toujours. Malgré les histoires qu'on lit dans les journaux, etc. Autrement, si vous arrivez à 30 ans, pour vous présenter quelque part, on vous dira à 30 ans, vous êtes déjà trop vieille ou trop vieux. Si vous restez 10 ans dans la même boîte ou 20 ans, on vous dira, mais c'est ridicule maintenant, rester 20 ans dans la même boîte, il faut évoluer, il faut changer pour connaître quelque chose de nouveau. Si Vers 45 ans, votre maison ferme ou fusionne, enfin, je ne sais pas, se lie avec une autre boîte, ou, enfin, etc. Il y a des changements dans la maison. Et que vous êtes sans emploi, on vous dira, mais à ce 45 ans, vous devriez déjà être mort à l'heure actuelle de chercher du travail. C'est pas une... Qu'est-ce que vous faites là à votre âge? Mais c'est fini, vous n'avez plus aucune chance de trouver quelque chose. À moins d'être spécialisé ou d'être ingénieur ou d'avoir quelque chose, un travail qui à l'heure actuelle a encore beaucoup de débouchés. Mais si vous n'avez pas une spécialité, ou du moins si vous n'avez pas une branche qui à l'heure actuelle marche, vous n'avez absolument aucune chance de trouver un travail. Alors tant que les gens qui ont plus de 50 ans, 60 ans, alors là, cela c'est terminé. Et c'est dommage parce que ces gens-là ont besoin de vivre. Il y a beaucoup de personnes qui ont encore des enfants. Et ça, c'est une chose qui n'est pas normale. Vous me direz, nous sommes en pleine réforme en France, il faut que ça se passe, il faut que ça se... Enfin, à l'heure actuelle, c'est tout de même pas normal, je trouve.
Oui. Et en quoi est-ce que les différences sociales consistent surtout maintenant? À quoi est-ce qu'on reconnaît, par exemple, les différentes
classes? Au train de vie de quelqu'un.
Train de vie, oui.
Aux, dirais-je, aux voitures, à confort, maison, loisirs, voyages, bateaux, tout ça sont des à côté. Vêtements peut-être. Mais moins maintenant parce que le vêtement c'est beaucoup plus difficile à juger. Mais surtout sur le train de vie et la maison, je crois.
Oui. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question sur votre nom?
Oui, bien sûr.
Qui me paraît... Enfin, ça doit être un très vieux nom.
Oui, oui, c'est
oui. Très une très vieille famille française.
Oui.
Aristocratique.
Oui.
Oui.
Est-ce ça date que... de, je crois, 1300 à peu près.
1300? Ah oui, vous tracez votre lignée.
Oui, oui, jusque-là.
Jusque-là.
Oui, oui.
Ah oui. Et c'est une famille qui a toujours habité à Orléans?
Non, pas du tout. Nous ne sommes pas à l'année... Nous sommes originaires du Poitou et de Normandie, de l'Ouest surtout. Mm-hmm. Et mes parents, mes grands-parents ont toujours vécu dans l'Ouest, enfin, de la France. Et j'ai pas mal de... Une partie de ma famille qui est maintenant partie au Canada depuis 2 ou 3 générations.
Ah oui.
Et nous sommes les seuls restés en France maintenant. Mm-hmm.
Et parti au Canada français, je suppose.
Oui, français. Oui.
Et garder la langue française.
Oui, c'est ça. Oui. Oui. Ils trouvent de reste que nous parlons un très mauvais français parce qu'ils ont gardé le vieux français dedans.
Oui, j'avais une amie française, non, canadienne française, on dit, dans ce temps-là. Oui. Oui. Et c'est de elle que j'ai appris d'abord à dire job en français. Oui. Mm-hmm. Et remarquez-vous que vous avez utilisé le mot aussi, vous-même, job. Ça vient peut-être de l'américain.
Oui, oui. Oui, mais mon père est très sévère sur ça.
Ah oui?
Parce qu'il trouve que je parle très mal et que j'emploie des mots, même week-end, il trouve qu'on devrait dire fin de semaine, des choses comme ça, mais enfin, ça ne dit plus.
Oui. Il n'aime pas le franglais?
Non, pas du tout.
Et vous?
Moi, oui. Je ne suis pas pour, mais je suis tellement habituée à parler des mélanges de langues toute la journée que finalement... Mais toute ma famille vivent, enfin ils vivent encore presque tous, mes cousins, etc., encore dans des propriétés en France.
Ah oui.
Oui, oui. Mais malheureusement, le train de vie a changé depuis plusieurs générations, les fortunes ayant diminué énormément. Mais enfin, j'ai encore beaucoup de cousins, de tantes qui habitent dans des vieilles propriétés, des vieux. Même des vieux châteaux forts en Bretagne, enfin.
Ah oui.
C'est tout à fait une autre... C'est assez amusant à l'heure actuelle parce qu'il y a encore une très grande différence entre la génération de... Mes grands-parents sont morts, mais enfin, j'ai encore des vieilles tantes et... qui vivent encore un petit peu vieille France. Et c'est assez amusant à l'heure actuelle parce que... Il y a un mélange pour moi d'un côté... le côté familial, mes parents ont assez évolué, mais j'ai pas mal de tantes qui vivent encore tout à fait avec les vieilles traditions d'autrefois. la vieille culture, ce qu'on appelle vieille France. C'est-à-dire, vieille France est un ensemble de traditions, de manières de vivre, une certaine politesse. Enfin, il y a tout un ensemble. Et moi, d'un autre côté, j'ai beaucoup évolué dans les milieux, en voyageant d'abord beaucoup. J'ai rencontré tas de personnes de tous les genres. En travaillant chez les Américains, j'ai rencontré encore un autre genre de vie. La vie étudiante était autre chose. Et j'ai, si vous voulez, j'ai évolué beaucoup, beaucoup plus qu'eux. Et je suis un petit peu, si vous voulez, à l'heure actuelle,
entre deux mondes.
Voilà. Je suis entre la vieille France et le monde un peu moderne. Ah, c'est assez amusant parce que ça fait deux vies très différentes.
Si vous deviez choisir l'une ou l'autre...
Je serais très ennuyée parce que j'aime beaucoup les deux.
Oui.
Mais l'une sans l'autre, je ne pourrais pas, je crois. L'une toute seule. La vie moderne, toute seule, ça me manquerait. Vous voyez, par exemple, la vie américaine... Parce que bon, c'est une vie pour moi qui est assez moderne, me plaît beaucoup parce qu'il y a énormément de très bons côtés, mais la vie, le côté vieille France, tradition, vie familiale me manquerait beaucoup aussi. C'est un mélange des deux que j'aime beaucoup.
Est-ce que vous pourriez donner des exemples de ces traditions dont vous avez parlé?
Oui, bien sûr. Par exemple, ici, pour la Saint-Hubert, par exemple, mon père s'appelle Hubert et c'est le patron de la chasse. Et pendant des années, nous allons à la chasse à cours, vous savez, en France, avec les chiens, etc., les troupes. Et le jour de la Saint-Hubert, nous avons aussi une statue, une vieille statue en bois. Et dans le temps, mon père sonnait la trompe, mais maintenant, il ne le fait plus. Mais nous mettons des disques de la messe de Saint-Hubert, en mettant des bougies. Et quand on était petits, nous avons été baptisés avec le sang du cerf. C'est une tradition parce que mon père est chasseur. Et... Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore
Les repas, par exemple, est-ce qu'il y a... Des traditions, des manières de...
Ah oui, certainement. Ici, moins, parce que... Mais enfin, quand nous avons des réunions de famille, il y a encore le bénédicité, quelquefois. Enfin, c'est souvent que... Quand on était petit, on n'avait pas le droit de parler à table avant l'âge de 7 ans. On avait... je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y avait encore comme chose... J'ai toujours fait la révérence en disant bonjour à des dames. Maintenant, ça se perd beaucoup, mais enfin, on l'a fait encore plusieurs fois. Beaucoup plus de respect vis-à-vis des personnes âgées que je crois à l'heure actuelle. Et je suis encore allée, il n'y a pas tellement longtemps, chez des amis qui habitaient en Bretagne. Mais ça, c'est très rare, mais enfin, ça arrive, vous voyez, encore. Où le père, après le dîner, nous faisait la lecture. Enfin, je vous dis ça, ce sont des choses qui se perdent. Enfin, il y a encore des coins de France, ça, où ça existe. Où le père est encore le chef de famille. Et puis, il y a des tas de choses. Par exemple, dans les villages... Il y a encore des bancs à la messe, vous savez, à l'église, pour les personnes qui habitent dans la propriété.
Oui. On voit les noms sur les bancs.
Oui, et puis les personnes qui habitent dans la propriété ont droit à un banc spécial. Ça s'en va aussi, ça a terminé. J'ai des cousines qui se sont mariées, les fermiers qui appartenaient encore au château, ont mis leur costume du pays et sont venus offrir un cadeau. Et ils ont été reçus pour déjeuner et on dansait sur la place de l'église, c'est en Bretagne ça. La ridée, tout le monde, les mariés, la famille, tout le village faisait ça encore. Et c'est une tradition que Je sais pas, les fermiers viennent offrir leurs vœux le jour de l'an. Des choses comme ça. Des tas de choses. Les domestiques qui ont toujours été dans la famille restent avec nous et ils sont considérés quand ils sont vieux comme presque comme des parents. Ils restent là, ils meurent en même temps avec les autres.
Ah oui.
Des tas de choses comme ça. C'est des petites choses, il faut que je pense pour vous le dire. Enfin,
Oui, je suppose que vous avez tellement l'habitude.
Oui, on ne fait pas
ça. Oui. Oui.
Mais c'est une autre genre de vie. Et finalement, quand on se retrouve dans des mariages ou des choses comme ça, même si on ne connaît pas les gens, on trouve très vite une parenté. Oui, c'est assez amusant parce que tout le monde est plus ou moins cousin ou ami, cousin, belle-sœur, beau-frère, et ça va très vite. C'est un genre de... On ne peut pas dire un clan, mais enfin un petit peu tout de même. Mm-hmm.
Oui.
Il y a des réunions de... qui se font des vieilles familles, même dans toute l'Europe encore, vous voyez.
Bien.
De personnes jusqu'à maintenant, de peu tous les genres.
Oui, presque tout le milieu, mm-hmm. Tous les quartiers de la ville. Je viens ce soir justement d'avoir une interview avec un ingénieur agronome.
Intéressant.
Oui, c'est très très intéressant. Il m'a expliqué comment il les ses responsabilités sont surtout les adductions d'eau, tout ce qui se rapporte aux travaux avec oui les adductions, les rivières, les
oui, ça va être intéressant.
Oui, c'est très, très intéressant.
En plus de ça, ça va être amusant parce que vous devez... Je crois que c'est là où on se rend finalement beaucoup plus compte des genres de personnes différentes d'après leur...
Oui.
C'est difficile à expliquer, mais je crois que c'est justement en parlant avec les personnes que vous pouvez vous rendre compte de...
Oui, oui.
Des niveaux de vie, etc.
Oui, c'est ça, oui. Mais ce qui m'a frappé surtout, j'avoue, c'est d'apprendre... que parce que toutes les personnes que j'ai interviewées travaillent de très très longues heures.
Mm-hmm.
Je suppose que moi-même je travaille beaucoup,
oui,
mais
oui.
J'ai pas l'impression que normalement en Angleterre on travaille si longtemps.
Une chose qui me frappe en Angleterre, c'est que les heures, par exemple, de théâtre, de cinéma, de choses comme ça, c'est beaucoup plus tôt.
Oui.
Par contre, en Espagne, alors là, c'est la catastrophe. C'est minuit à 1h du matin, les gens sont encore dehors.
Oui.
Mais en Angleterre, c'est vrai, tout à 5h ferme, oui. Les magasins ferment à 4h30 ou 5h, je ne sais pas.
5h30 maintenant, oui, plutôt. Tôt. Et puis le théâtre commence à 7h.
Oui, c'est très très tôt.
Oui. Oui, c'est parce que il y a presque partout la journée continue, je crois. On a l'habitude de manger très à la hâte, oui. Très peu à midi.
Et puis, c'est ça la catastrophe, parce que pour les Françaises qui vont en Angleterre, je crois que j'ai pris 12 kilos.
Ah oui.
Parce que à midi, je suis habituée à avoir un grand déjeuner et là-bas on avait un petit biscuit, une petite tasse de soupe. Je mourais de faim, je me précipitais chez un pâtissier, manger des gâteaux, des biscuits, du chocolat. Et tous les jours avec un climat, le climat fait grossir, je crois en plus. Et j'avais pris 12 kilos quand je suis revenue en France, tout le monde me regardait. Catastrophe.
Eh bien, est-ce que je pourrais vous poser des questions
oui,
un peu plus précises maintenant sur des questions de langue? Est-ce qu'il y a chez vous un dictionnaire?
Oui.
Et lequel?
Larousse.
Oui.
Et plus tous les dictionnaires de latin, langue... celui de le français, allemand, français, espagnol, français, italien,
ah oui, ah oui, bien sûr. Et le Larousse,
c'est ça. Et Larousse, ce sont les gros volumes, vous savez.
Les gros volumes, hein, 10 volumes, 12
oui,
volumes.
Oui, c'est ça, oui.
Oui.
Plus des petits Larousse.
Oui. Et est-ce que vous les avez, ces Larousse, depuis toujours ou...
Et les vieux volumes, oui, depuis toujours.
Mm-hmm.
Nous en avons acheté quelques plus petits pendant pendant que faisions nos études avec mes frères.
Ah oui. Et qui est-ce qui s'en sert le plus souvent?
Peut-être mes frères. Mm-hmm. Moi pour les langues, mais pour le français uniquement, ah, oui. Moi.
Oui, moi. Vous en servez quand même?
Je m'en sers, oui, mais surtout... Oui, moi aussi, oui, beaucoup finalement, peut-être moi aussi. Oui, parce que quand j'écris, je regarde finalement pas si souvent les mots, parce que...
Oui. Ah oui. Et qu'est-ce que vous cherchez le plus souvent, le sens ou l'orthographe ou...
L'orthographe maintenant.
Oui.
Les dictionnaires étrangers, naturellement, la traduction, mais les français, l'orthographe surtout.
Oui. Et c'est surtout pendant votre travail que...
Oui. Non, pour mon travail, je ne sais pas du tout.
Ah non?
Non, parce que c'est les chiffres, hein, je n'en ai pas besoin. Non, c'est surtout si j'écris ou si j'ai besoin d'écrire surtout.
Ah oui. Est-ce que vous avez aussi des livres sur, par exemple, l'art de parler ou l'art d'écrire ou les difficultés de la langue?
Non, rien du tout.
Non. Oui, bon.
Ah, simplement, je voudrais... enfin, ça, c'est pas la même chose. J'ai vu une nouvelle méthode de... Comment ça s'appelle La méthode Kennedy, John Kennedy, pour lire plus rapidement.
Ah oui.
Oui, ça m'intéresserait parce que je dois lire beaucoup de... Regulation.
Ah oui. Et nous, on fait des cours de cette sorte dans notre collège.
Ah oui. Ça m'intéresserait beaucoup.
Oui. Et c'est amusant de savoir à quelle vitesse on lit.
Oui, c'est ça. Oui. Alors ça m'intéresserait. Et je ne dis pas que plus tard, je ne prendrai pas des cours de... Enfin, pas pour le moment, mais peut-être plus tard, je prendrai des cours de français pour me remettre dans le bain. Mm. Parce que pour le moment, je suis trop dans cette ambiance moitié américaine et italienne. Et je prendrai peut-être plus tard des...
Oui.
Des cours pour me remettre un peu dans le bain.
Oui. Est-ce que vous faites des mots croisés?
Non, pas du tout.
Vous avez dit déjà ce que vous pensez du franglais.
Oui.
Et je crois que je m'en rappelle. Est-ce qu'il y a des différences, selon vous, dans la façon de parler français entre les gens de différents milieux sociaux?
Ah oui, très nettement.
Ah oui? En quoi consistent ces différences, surtout?
Dans certains mots, expressions... tournure de phrase, accent.
Accent, ah oui. Et est-ce que c'est important l'accent? Est-ce que ça distingue?
Oui.
Ah oui. Qu'est-ce que cela distingue?
Des différences de niveau, de milieu peut-être.
Ah oui.
Oui.
Ah oui, vous trouvez.
Tout du moins, oui, ça et les régions. La région de France d'abord. D'abord la région de France, et si on veut rechercher plus profondément, certaines intonations peuvent vous donner, c'est peut-être pas exactement les milieux, mais certaines intonations vous donnent l'endroit ou le quartier ou les endroits où cette langue se parle, et ça vous met automatiquement les personnes peut-être dans une certaine classe, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas eux-mêmes, mais l'accent, par exemple un accent du titi parisien, vous avez connu l'expression du titi parisien, ça vous mettra automatiquement cette personne-là dans une certaine catégorie du titi parisien, vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Un autre qui traîna un peu sur les mots, ou un accent campagnard, vous les mettez, oui.
Est-ce qu'il y a des accents régionaux qui sont mieux appréciés ou mieux acceptés que d'autres?
On dit que la langue française la plus pure est la Touraine.
Oui.
Le Midi, c'est un accent sympathique et chantant, mais les gens de bonne famille, dirons-nous, de famille assez élevée, du Midi, ils n'aiment pas parler avec un accent. Elles font très attention de ne pas l'avoir.
Mm-hmm.
C'est plutôt un peu populaire, peut-être.
Ah oui.
Un petit peu.
Est-ce que vous croyez que les gens parlent aujourd'hui de mieux en mieux ou de moins en moins bien?
Moins en moins bien.
Oui. Et de quoi est-ce que cela vient?
de beaucoup d'expressions et de mots argots qui sont employés, d'une mauvaise connaissance de la langue française, du manque de, justement, de culture et d'études approfondies de la langue, d'une certaine paresse à trouver les mots justes et de se contenter de franglais aussi, de mots qui viennent plus rapidement finalement et qui sont plus peut-être imagés. Plus imagés. Même moi, oui, je suis...
Oui. Parmi les gens que vous êtes amenés à entendre parler, quelle est la profession qui vous semble parler le mieux français?
Quelle est la profession? Les professeurs, tous ceux qui enseignent peut-être. Oui. Mais enfin, professeurs, tout ce qui est rapport à littérature, langue, philosophie. Et peut-être aussi toutes les professions libérales, en général, ça, pour moi, c'est bien.
Est-ce qu'il y a en France un organisme qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
Oui, il y a certainement quelque chose, mais je ne peux pas vous dire quoi. Je crois que c'est... Il y a certainement quelque chose, mais je ne sais pas quoi.
On trouvait que c'est une idée utile.
Oui, certainement.
D'avoir
un
organisme comme cela.
Je crois que ça revient un petit peu avec le CNRS, fait un petit peu ça pour les choses scientifiques. Ça va être la même chose pour les langues, pour la langue française, ceux qui font les dictionnaires, enfin qui les révisions des dictionnaires, je pense.
Oui.
Mais je ne sais pas quoi.
Est-ce qu'il faudrait obliger les journalistes, les speakers de la télévision et de la radio
à parler certainement.
Un bon français?
Ah oui. Alors là, c'est une catastrophe.
Oui.
Parce que je trouve dommage que des personnes qui sont entendues par des milliers de Français parlent très mal. Ils parlent, ils emploient des mots très pauvres et lui, je ne me permettrai pas de les juger, mais enfin, je trouve qu'ayant une situation à la télévision, à la radio, ils ne devraient pas se permettre de ne pas parler un français impeccable. Parce que tout le monde les écoute et finalement, on apprend la langue, même la sienne, en écoutant les autres parler. Et je trouve ça dommage.
Ah oui. Est-ce que la langue française est aussi bien enseignée que du temps où vous étiez vous-même à l'école? Aussi bien, ou mieux, ou moins bien?
Je ne sais pas. Je peux dire vrai parce que je n'ai pas de... Je ne peux pas juger parce que...
Dans quelle matière est-ce que vous étiez le plus fort à l'école?
Mathématiques et dissertation française, mais c'est terminé.
On ne fait plus. On ne fait plus de dissertation française, vous voulez dire?
Si, je crois qu'on en fait encore un petit peu, oui.
Vous avez dit que c'est terminé.
Maintenant c'est terminé parce que le... Mais j'étais assez bonne en dissertation, maintenant je ne suis plus.
Ah bon?
C'est pour ça que pour moi.
Bon. Qu'est-ce que vous portez habituellement sur vous pour écrire?
Un stylo plume et un crayon bille. Mais j'aime. C'est encore une. Une vieille tradition, c'est que pendant on me dit que c'est mal élevé d'écrire avec un crayon de bille.
Ah oui, vous écrivez toujours avec un stylo à plume.
Pour des personnes, qui sont sensibles certainement.
Ah oui, vous avez toujours possédé un stylo à plume.
Oui,
Et quand est-ce que vous avez écrit pour la dernière fois?
Aujourd'hui.
Oui, pour votre travail.
Non, pour moi personnellement. Enfin, j'écris toujours pour mon travail, de toute façon tous les jours, mais enfin, là c'était pour moi.
Il y a 50 ans que les États-Unis n'avaient pas connu un hiver aussi rigoureux.
Est-ce qu'il est important, selon vous, d'avoir une belle écriture?
Belle, pas forcément belle, mais qui ait du caractère.
Mm-hmm. Oui, est-ce que vous diriez très important ou important? Je demande de choisir.
Plutôt très. Mm-hmm. Je suis très sensible au... C'est un petit peu un reflet de la personne.
Ah oui. Et est-ce qu'il est important, selon vous, d'avoir de l'orthographe?
Oui, très.
Oui. Oui, pourquoi?
Pourquoi? C'est une genre de tradition qu'on juge, c'est peut-être, on juge beaucoup une personne sur son orthographe. Mm-hmm. C'est peut-être un tort, là, je ne vous dis pas que c'était une... Mais ça prouve du moins une certaine éducation, peut-être. Mm. Oui, c'est très important.
Est-ce que vous seriez favorable à une réforme de l'orthographe?
Je serais... Oui, mais je trouverais ça presque impossible, finalement, parce que... C'est possible, mais je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on pourrait y arriver. Mais ça pourrait être possible, oui.
Dans quel sens est-ce que vous verriez cette réforme? Simplification
ou... Oui, je crois surtout, vous voyez, pour quand on parle plusieurs langues, il y a beaucoup de... Ce qui est très difficile, finalement, par exemple, regardez battalion en français et en anglais. Il y a un, deux oui. T, un L, autre un L, deux T, correspondance avec un L, autre avec un A, adresse avec deux D, l'autre avec un D. On pourrait simplifier, tout du moins en Europe, ou je ne sais pas, d'avoir les doubles... je ne sais pas, tout ce qui pourrait avoir au moins les consonnes, les voyelles, enfin essayer oui. d'avoir la même chose dans les deux langues.
Oui.
Ça simplifierait certainement pour les gens.
Oui, il y a des tas de questions ici sur votre mari. Oui. Ah. Combien de lettres est-ce que vous écrivez en moyenne par mois?
Une dizaine.
Une dizaine. Ça, c'est des lettres personnelles.
Oui, personnelles et puis des lettres d'affaires, enfin, oui. Je sais pas, les impôts, la sécurité sociale, oui. Des choses comme ça.
Oui. Mais... Est-ce que vous conservez les lettres personnelles qu'on vous envoie?
Oui, toujours.
Oui. Et combien en possédez-vous environ à l'heure actuelle?
Oh mon Dieu, énormément.
Énormément.
Des caisses, moi 3-5 caisses.
Oui. Quand vous écrivez à des amis, est-ce que vous faites un brouillon?
À moins que ce soit une lettre... non. C'est vraiment très rare si la personne... une lettre de remerciement d'une personne qui sera un peu... Une lettre très importante, peut-être une lettre de demande d'emploi, quelque chose comme ça,
oui,
mais généralement...
c'est ça, lettre officielle.
Oui,
vous
mais sinon,
feriez peut-être un brouillon, oui. Oui. Est-ce que vous feriez attention aux fautes d'orthographe?
Oui, certainement.
Pour les lettres à des amis?
Certainement.
Oui. Et est-ce que vous relisez?
Oui, toujours.
Oui. Et vous écrivez avec un stylo à plume, vous avez dit, déjà. Vous servez quelquefois d'un stylo à bif pour écrire?
Oui, assez rarement, enfin, je peux le faire, oui.
Ou d'une machine à écrire pour...
Non, jamais.
Non.
Ça, en France, c'est pas encore tellement admis. Ça vient, mais c'est pas encore. Mm-hmm. En Amérique, oui, mais pas... Ou en Angleterre aussi, pour beaucoup.
Des lettres personnelles, oui, peut-être, mais c'est moins répandu qu'en Amérique, quand même. J'ai une sœur qui m'écrit des lettres sur sa machine à écrire. Je trouve toujours... un peu drôle.
Oui, je trouve ça dommage parce que l'écriture reflète un petit peu la personne.
Oui.
Et puis c'est plus vivant, enfin c'est plus... C'est moins froid.
Oui. Oui. Et quel type de papier est-ce que vous utilisez?
Blanc.
Pour les classique. Lettres, oui. Est-ce que vous servez, est-ce que vous utilisez jamais du papier à carreaux?
Jamais.
Jamais. Je vous pose la question parce que c'est une des choses qui est très différente en Angleterre. Le papier à carreaux n'existe guère, comme vous avez pu remarquer. Et on se demande... Enfin, oui, ça, je crois que ça donne certaines indications de...
Beaucoup.
Du tout genre
ça,
de vie.
Voilà. Toutes ces petites choses-là, si vous les mettez les uns à côté des autres, je crois que quand vous regardez quelqu'un, que vous voyez ça dans son écriture, son papier à lettres, ses bagues, sa manière de s'habiller, de se coiffer, vous pouvez très vite... Je crois que c'est partout pareil.
Oui.
Vous faites un jugement en un mot, peut-être quelques gestes, mais enfin à table. Les gestes à table, les quelques mots, l'habillement, la manière de se coiffer, les bagues au doigt, les papiers à lettres, c'est très vite, c'est.
Oui.
Mais sans le critiquer, mais ça vous donne une certaine...
Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai, oui. Et à quoi est-ce que cela, sert, le papier à carreaux?
Le papier à carreaux, mais c'est une ligne, vous voulez vous dire, ou des petits carreaux comme ça.
Petits carreaux.
C'est une certaine catégorie de personnes qui aiment bien écrire là-dessus parce que ça vient un petit peu d'origine campagnarde, je crois, qu'ils ont gardé. Et puis les traits sont... ils sont sûrs d'écrire plus facilement parce qu'ils gardaient les carreaux, vous mettez les lettres. Et c'est resté un peu de père en fils, ils ont gardé ça. Et...
Ah oui, je vois. Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans la façon de parler des gens que vous connaissez?
Oui.
Oui. Quelle sorte de choses vous agacent?
Ça dépend. Si c'est des personnes... si ce sont des personnes que j'aime bien, oui. Si ce sont des personnes que je vois tous les jours pour des raisons de travail, non, ça m'est égal. Sur les personnes que j'aime bien, oui, certainement. Quoi? Pas dans la famille. Mais des amis, par exemple, que j'aurais à l'extérieur, qui emploieraient des expressions... si ce sont des personnes que j'aime bien, je leur ferais peut-être remarquer, ou tout au moins, je le ressentirais.
Quoi, des expressions...
Ou des mots.
Ou des mots, oui. Pas le franglais, évidemment, parce
non,
que
non.
Le franglais...
Par exemple, quelqu'un qui dira... Jeanne fréquente Paul. Fréquenter, c'est pas très joli. Vous voyez, ce sont des choses quand même... Ou alors des personnes qui diront je vais au coiffeur. C'est pas joli, quand même, on dit pas ça.
Qu'est-ce qu'on devrait dire?
Je vais chez le coiffeur.
Chez le coiffeur.
Et chez le dentiste. Il y a des gens, il y a des personnes qui disent ça. Je vais chez c'est... Des petites choses comme ça. Qui ne me dérangent pas du tout si ce sont des personnes que je ne connais pas, mais si ce sont des personnes que j'aime bien.
Un professeur de français m'a fait remarquer aujourd'hui que j'utilisais une expression qui était familière, que je ne devrais pas utiliser. Il m'a dit... non, ce que je disais, c'est que j'avais remarqué qu'il y avait plusieurs personnes que j'avais rencontrées qui étaient montées à Orléans pour chercher du travail.
Oui, on dit pas monter.
Oui.
Je monte à Paris, ça c'est une expression, oui, on ne dit pas. Je vais à Paris.
Tu vas à Paris, ah oui.
Mais il y a beaucoup de personnes qui disent monter, mais parce que on monte vers le nord, enfin, vers le nord, on monte et on descend sur Orléans.
Oui.
Oui, il y a des personnes qui... Oui, c'est le même genre de choses, monter, fréquenter, je vais à Haut-Coiffeur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des petites choses, mais les gens les remarqueront, certainement.
C'est difficile pour un étranger,
oui,
n'est-ce pas?
Ah oui, mais là, les étrangers se sont excusés automatiquement. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème.
Est-ce que vos parents faisaient attention à la façon dont vous parliez lorsque vous étiez enfant?
Oui.
Et qui est-ce qui vous reprenait le plus souvent? Est-ce que c'était votre père? Oui. Et pour quel genre de choses surtout?
Des tournures de phrases qui n'étaient pas bonnes, des mots qui n'étaient pas exacts. Par exemple, Orléans, vous voyez, il y a une expression que vous entendrez certainement souvent, ils disent quel don. Vous allez dans un magasin, ils vous disent quel don chaussure voulez-vous, ou quel don fleur vous voulez, ou quel don. Ça veut dire.
Quel don.
Oui, et Orléans, c'est une expression orléanaise, ça. Je suppose que vous n'avez pas remarqué, mais si vous allez dans un magasin, quel don. Vous voulez dire quelle chaussure voulez-vous, quel don.
Ah oui, c'est don. D-O-N-C ou D-O-N-T?
D-O-N-C.
Quel don voulez-vous? Quel don chaussure? Oui. Ah oui, c'est intéressant. Est-ce que votre père prenait des sanctions pour ce genre de choses?
Non. Non, il nous le faisait remarquer, mais...
Non. Eh bien, c'est tout. Je vais... Et la nationalité d'origine de votre père est évidemment français, de votre mère aussi. Oui. Est-ce que vos grands-parents paternels ont eu une profession?
Mes grands-parents paternels... Oui, officier.
Et vos grands-parents maternels?
Aussi, officier.
Officier.
Non, oui, officier. Oui. Non, c'est mon arrière-grand-père qui était général, et mon grand-père était... Rien.
Rien. Ah oui. Et est-ce que vous savez jusqu'à quel âge ils ont fait des études?
Oui, ils ont passé leur bac et après ça, ils ont fait... Un a fait Saint-Cyr, celui qui est officier, et l'autre a fait son baccalauréat et son droit, chose comme ça, enfin, je ne sais pas exactement, enfin, quelque chose, le droit ou...
Oui. Et c'est le grand-père maternel qui a fait Saint-Cyr, alors?
Non, le grand-père
paternel,
celui qui est officier, a fait Saint-Cyr, parce que Saint-Cyr, c'est l'école militaire de préparation militaire française.
Oui.
Et l'autre, il a fait son droit, enfin, quelque chose comme ça, mais il n'a pas travaillé.
Oui. Oui. Et votre père a une...
Mon père était ingénieur de pétrole. Enfin, jusqu'à la guerre, après ça, il était dans la peinture, maison de peinture. Jusqu'à la guerre, il a fait des études de baccalauréat, après ça, d'ingénieur, et après ça, il était dans la peinture.
Et votre mère a une profession?
Non, elle a fait son même chose, bac, et puis je ne sais pas si tout. Elle a fait des études d'infirmière, mais... Mais il n'a pas travaillé.
Oui. Et voilà. Est-ce que tous les membres de votre famille ont fait des études de latin?
Tous, sauf un.
Oui. Et du grec?
La moitié, tout sauf trois.
Sauf trois, oui. Moi, un peu moins répandu. Voilà. Et tous les membres de la famille ont fait leurs études dans un établissement privé.
Oui.
Oui.
Privé, il y a eu le lycée aussi après, il y a eu des mélanges.
Oui. Alors, c'était pas le lycée privé alors?
Il y a des études dans les pensions religieuses, la plus.
Oui.
Et puis on a terminé au lycée, presque tous.
Ah oui, c'est dans le lycée public.
Oui.
Alors, ah oui.
Lycée de Orléans. Mm-hmm.
Eh oui. Et vous êtes allé à l'école pour la première fois à quel âge?
Je devais avoir, je ne sais pas, 5 ans, à peu près.
Et vous avez continué à faire des études?
Oui.
Jusqu'à quel âge?
Jusqu'à 18 ans.
Et puis quelques...
Et après ça, j'ai toujours continué, mais alors en cours, cours du soir, en cours particulier, à l'étranger, etc.
Oui. Et vous avez fait des études de latin, et de grec?
Non, moi j'ai pas fait de grec.
Alors, est-ce que vous pourriez me dire les établissements où vous avez fait les études?
Oui, l'étude de... Le cours Saint-Charles, c'est les pensions religieuses de la sagesse. Le lycée.
C'était externat.
Oui, c'est ça, externat. Et après ça, j'ai fait des... Il y a eu beaucoup de choses après. Après ça, j'ai fait des études de commerce. Après ça, j'étais aux arts et métiers à Paris, les cours du soir. Et puis des écoles à l'étranger.
Oui. Vous avez passé le bac?
Non, j'étais jusqu'au bac, mais j'ai pas passé.
Jusqu'au bac, oui. Et puis après ça, arts et métiers, et puis étrangers, je vais mettre.
Oui.
Oui, c'est ça. Est-ce que vous écoutez la radio?
Oui.
Est-ce que vous pourriez dire combien d'heures, en général, par semaine? Ou par jour?
Une moyenne d'une demi-heure par jour.
Je vais faire le calcul après. La chaîne que vous préférez?
Europe, souvent.
Et les émissions? Ou l'émission que vous préférez? Que vous écoutez?
Aucune. Je mets ça. Non, ce que j'écoute le plus finalement, c'est la musique classique sur FM, modulation de fréquence, c'est tout. C'est ça que j'écoute le plus souvent.
Ah oui.
Le matin, j'écoute un peu ce qui vient. Mais...
Oui. Et vous regardez quelquefois la télévision.
Oui.
Même chose, une demi-heure par jour, enfin, ou une demi-heure par semaine.
Une heure par jour, à peu près. Parce que le dimanche ou le samedi, j'en ai un peu plus.
Oui. Et là, vous avez une chaîne préférée?
Oui, la première, on en a qu'une.
Ah oui. Les émissions.
Les émissions. Tout ce qui est rapport au voyage, etc.
Oui.
Et les pièces de théâtre, la musique.
Oui.
Et surtout quelquefois les variétés, ce sont amusantes. Et les bons films.
Oui. On appelle ça en Angleterre des goûts très catholiques, je ne sais pas si...
Oui, un petit peu de tout.
Oui, et le cinéma, vous allez quelquefois, vous avez déjà dit, souvent?
Une moyenne de... C'est très irrégulier, en moyenne 2 fois par mois, à peu près.
Et le genre de film ou les films que vous êtes tenté de voir?
Ça, ça dépend de l'humeur du moment.
Oui.
Plutôt des films italiens.
Ah oui. Ah oui.
Enfin, un peu ce genre d'esprit de film au suédois, je ne sais.
Oui. Est-ce qu'à votre avis, la radio, la télévision et le cinéma sont des instruments de culture?
Oui. Certainement si elles sont bien employées, mais enfin malheureusement c'est un petit peu, à mon avis, bourrage de crâne, un petit peu publicité.
Oui.
C'est dommage.
Oui.
Les gens pensent trop la même chose et ça tue les conversations et les ententes et les, comment dirais-je, les liens familiaux, etc. Parce qu'il n'y a plus de conversation, d'échange.
Ah oui. Est-ce que vous faites de la photographie?
Un petit peu, oui.
Oui. Quel genre de photo est-ce que vous...
Ce que je peux.
Ah oui. Et vous faites la peinture?
Oui, j'ai foutu en couleur, surtout je fais cela. Oui, un petit peu.
Oui. Vous avez des peintres préférés?
Des peintres préférés, oui. J'aime beaucoup les pastels. Genre Latour, enfin vous voyez, c'est l'ancien. J'aime beaucoup les primitifs.
Ça,
c'est
aussi.
Dans la vie, oui.
Oui, moi aussi.
Et dans le mode, dans les enfin, plus récents, qu'est-ce que j'aime? Van Gogh, c'est un. Enfin, dans les plus classiques. Et dans les modernes, enfin tout ce qui est Van Gogh, Modigliani, tout ça, j'aime assez ces gens-là.
Est-ce que vous allez au musée?
Oui, certainement.
Oui.
Et à des expositions? Dans tous les pays étrangers, j'y vais.
Ah oui.
J'y vais toujours. Et au Louvre aussi, je sais.
Oui. Il y a des expositions?
Oui,
lorsqu'il y en a.
Oui.
Oui. Vous faites de la musique?
Oui, oui. J'en ai fait, mais j'en fais plus. Du piano, oui.
Piano. Vous avez des compositeurs préférés? Je crois que vous avez déjà dit d'ailleurs.
Des compositeurs préférés? Tous les grands classiques, je les aime. Mais spécialement Bach. Chopin.
Vous possédez un électrophone?
Oui.
Et vous allez au concert quelquefois?
Oui, certainement.
Oui. Vous allez au théâtre?
Oui.
Quelquefois.
J'ai toujours un concert de musique contemporaine, c'est atroce.
Oh!
Vraiment, je on n'est pas formé à ce genre de musique, mais c'est
musique concrète, non? J'avoue, ouais. je n'y comprends rien.
Non, non, moi non plus, absolument
du
rien.
Tout. Autant se mettre carrément dans la rue et écouter la
oui,
circulation.
C'est ça. Oui, exactement.
Et quels sont vos auteurs préférés pour le théâtre?
Mes auteurs préférés pour le théâtre, on va dire que les pièces que je vais voir, c'est toujours, je sais pas tellement au théâtre, attendez, dans les choses modernes. Enfin, toutes les tournées Barrest qui sont venues ici, on a vu surtout, comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci, le plus connu? Je ne sais plus son nom.
Oh, ça n'a aucune importance.
Enfin, en dehors de toutes les choses de Monterland, de
oui.
Claudel, etc., qui sont les classiques que j'ai vus. Comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci? Attendez, je cherche son nom. J'ai aucune mémoire des noms des gens, de toute façon.
Nom de la pièce peut-être ou d'une pièce?
Oui. Je ne sais même pas dans les pièces. Ah, j'ai vu Croque Monsieur, Fleur de Cactus. La cuisine des anges. Je sais pas, enfin, vous le voyez ce genre de
oui,
pièce.
Oui, oui. Ça n'a aucune importance, on peut chercher les auteurs après.
Oui.
Oui. Et quel journal est-ce que vous lisez régulièrement?
Le Figaro, Herald Tribune.
Figaro et
Herald Tribune. New York Herald Tribune.
Ah oui. C'est parce que vous parliez anglais, j'écoutais en français, voilà, je ne comprenais pas. Oui.
Et puis l'aurore. Et plus les matchs Jour de France, Le Monde, pas toujours, mais pas toujours, Valeur, je sais pas, pas mal, d'autres.
Et vous lisez?
Oui.
Vous avez dit déjà aussi des livres, oui. C'est-à-dire, combien de livres croyez-vous que vous lisez dans une année?
Je lis une moyenne de 2 à 3 livres par mois, à peu près.
Par mois. Oui. Vous avez des genres préférés?
Oui. J'aime beaucoup... beaucoup d'étrangers. J'aime beaucoup Knittel, je ne sais pas comment vous appelez. John Peter, j'ai lu de Steinbeck.
Ah oui, oui.
Faut que je regarde les noms, sinon je les lis. Donc, qu'est-ce que j'ai lu encore? Grant Green.
Oui.
Anne Suyin, là, celle qui écrit, vous savez, la chinoise, là. Elle s'appelle Anne Suyin. Qui écrit l'arbre mort, la pluie pour ma soif. Anne Suyin, je crois qu'elle s'appelle.
Anne.
Suyin, je suis pas très bien sûr, mais franchement, c'est quelque chose comme
je
ça.
Je connais pas, c'est peut-être que.
Dans les français. Jean Duché, j'ai lu pas mal de choses de lui. Pierre Benoît, ça c'est le roman feuilleton hein, pour passer le temps. Un petit peu de tous les genres.
Oui. Vous possédez beaucoup de livres?
Beaucoup de livres de poche, oui.
Oui.
Oui, beaucoup.
Vous pourriez dire combien?
Je sais pas, 200.
200, oui. 150, oui. Et finalement, est-ce qu'il y a un parti politique qui représente bien vos opinions?
Non.
Est-ce que vous vous classez politiquement?
Non. Enfin, je me classe. Qu'est-ce que vous entendez?
C'est-à-dire, est-ce que vous avez des idées politiques? Est-ce que vous...
Oui, je suis plutôt contre, mais je suis pour, comme beaucoup de Français, plutôt contre, mais sans savoir exactement pour qui, parce que c'est un peu contre,
oui.
Comme beaucoup de Français.
Bon, alors, je vous remercie, c'est la dernière question, je m'excuse.
Bonjour.